un délicieux détour, où l'on suit un écrivain en herbe sur les glaces et dans les verts pâturages d'essence. Antonin avait réussi à faire publier un de ses romans et, partant, n'était plus n'importe qui. Tout à coup, il était devenu intéressant d'écouter Antonin, qui parlait maintenant avec plus de poids que l'année précédente, quand il n'était encore qu'un morveux efflanqué, servant d'acolyte à Herbert à Guesgrave. Suite à la publication de son livre, les visites à Guesgrave s'intensifièrent parce que les chasseurs du nord-est du Groenland étaient tous impatients de jeter un œil à l'œuvre d'Anton et d'entendre de leurs propres oreilles parler le maître. Et Anton ne se faisait pas prier. Il expliquait son livre et ses nombreuses idées étonnantes, tandis qu'Herbert, son compagnon de station, servait le café et autres friandises aux visiteurs sur la pointe des pieds, en prenant garde de ne pas déranger. Le livre d'Anton suscitait un tel intérêt que même Walfred s'arracha exceptionnellement tôt de son hibernation pour se laisser transporter jusqu'à Guesgrave par le lieutenant Hansen. Ce fut un voyage agréable pour tous les deux. Walfred passa l'essentiel du trajet allongé entre les pauses sur le traîneau, d'où il encourageait les chiens avec des petits raclements de gorge et Hansen avec des mots élogieux sur ses talents de cocher de traîneau. De temps en temps, il se réveillait après un petit somme et pouvait alors être aussi lyrique que philosophe. Ce pays, petit Hansen, ne peut être que le pays même des dieux. Hansen marchait énergiquement derrière le montant du traîneau. Son visage ruisselait au soleil de printemps, et les longues moustaches pointues jaillissaient de chaque côté de son nez d'où dégouttait une paire de stalactites. « Bizarre alors qu'on ne les voit pas un peu plus, murmura-t-il, parce qu'il faut chercher longtemps avant de trouver un pays plus abandonné de dieux. » Walfred leva un regard souriant vers le visage du lieutenant. « C'est exactement ce que je veux dire, dit-il. » Il était agréable de discuter avec Hansen parce qu'il contredisait rarement les gens. C'était exactement les mots « abandonnés de Dieu » que j'avais en tête, parce que je crois qu'au fond, les dieux sont comme nous autres, les humains, et c'est pour ça qu'ils ne restent pas chez eux. Le lieutenant sauta sur le bord arrière du traîneau et les chiens tournèrent la tête en lui envoyant des regards réprobateurs. Mais comme Hansen persistait à rester là où il était, ils continuèrent à tirer, résignés. « Qu'est-ce que tu veux dire au juste quand tu dis que les dieux sont comme les humains, Walfred ?» Le lieutenant accrocha son fouet au montant et se pencha par-dessus le sac du traîneau. Walfred se tourna de manière à être couché transversalement. « Ben, tu vois, Hansen, toi qui as vécu dans la civilisation à une certaine époque, t'admets que c'était pas spécialement divin, n'est-ce pas? Si les dieux n'avaient pas été comme nous, tout aurait probablement été un peu moins humain. » Hansen réfléchit un peu avant de dire. « T'es un peu difficile à suivre, Walfred. Mais si les dieux sont comme les humains, eh bien nous, nous sommes aussi comme des dieux ?» Walfred rigola doucement. Il laissa sa langue glisser sur la surface impeccablement lisse de ses dents du commerce. « Voilà que tu dis quelque chose, Hansen, à quoi j'avais pas du tout pensé. Mon idée, c'était que la plupart d'entre nous, on a un petit coin de géographie qu'on aime et dont on a toujours la nostalgie. Soit qu'on se l'imagine, soit qu'on y a été et qu'on a envie d'y retourner. L'Afrique, l'Hollande ou les Marquises. Mais pour la plupart d'entre nous, on doit rester là où on est et se contenter de rêver. » Parce que la plupart des gens sont diablement pris par le quotidien et coincés dans un autre lieu que celui qu'ils aiment. Ici, Hansen, c'est le domaine privé des dieux, mais ils n'ont pas beaucoup le temps d'y venir avec tout ce qu'ils ont à faire ailleurs. C'est peut-être pour ça que c'est à ce point divin ici. Hansen tournicotait pensivement sa moustache. Il n'y voyait pas complètement clair dans la philosophie aléatoire de Walfred. Il se contenta donc de murmurer entre les dents. « C'est bien possible, Walfred, pas complètement impossible même. » Avec un sourire heureux, Walfred se renversa sur la peau de bœuf musqué en reposant la nuque légèrement contre le sac de voyage. C'était un bonheur d'avoir un compagnon comme Hansen, pensa-t-il, un être assez ouvert pour aller au-delà de ses opinions personnelles. L'arrivée des deux amis à Guesgrave fut une heureuse surprise, et ils y furent chaleureusement accueillis. Herbert grilla des steaks de morse grands comme des abattants de cuvettes de WC et les arrosa de deux bouteilles de vin du comte, du Chablis Gros Vert 31, un vin réunissant tout le charme, le caractère et la rondeur du Nord. Après le dîner, ils s'installèrent à l'aise autour de la table et parvinrent à allumer chacun son cigare de la fabrication de Volmersen. Et c'est là que le lieutenant entreprit de soumettre Anton à la question. « On raconte sur la côte que t'as édité un écrit, Anton. » Anton eut un sourire modeste et se leva pour aller chercher sa première publication dans son bureau, c'est-à-dire son tonneau de graisse de phoque installé derrière la grand voile de l'aïeul suspendu dans un coin de la salle principale. Le lieutenant lissa les bouts de sa moustache. « Il s'agit de quelque chose en particulier ?» demanda-t-il intéressé. « De l'amour, » s'empressa de répondre Herbert à la place d'Anton. « Un roman fin et bien écrit sur l'amour. » Le lieutenant saisit le livre et le feuilleta. « Un sujet sympathique mais difficile, » dit-il d'une voix calme, « et un livre joliment imprimé, je trouve. » Il le passa à Walfred, qui, passablement alourdi par le dîner, s'était installé dans la couchette d'Herbert. Il regarda longuement la première, puis la dernière page. « Ça doit pas être évident de rassembler un livre comme ça, » dit-il avec admiration. « Et qu'est-ce qu'il est épais, Anton ? Tu t'es vraiment appliqué depuis que tu habitais avec moi à Fimbul. » Il sourit à son élève d'autrefois. « Et il s'agit d'amour, tu dis. Hé hé, hé oui, t'as toujours eu des problèmes de ce côté-là. Mais c'est peut-être finalement mieux de se sortir des difficultés en écrivant qu'en baissant son pantalon pour s'en débarrasser en courant contre le vent de sud-est. » Il frappa la couverture de la jointure de ses doigts. « Un livre beau et épais, Anton. Quand est-ce que tu l'as eu ?»«
Il est arrivé avec le bateau, » répondit Anton.
Walfred rendit rapidement le livre, puis il s'essuya soigneusement les doigts dans la couverture d'Herbert. « T'es sûr que ce livre n'est pas un peu enrhumé » demanda-t-il. Anton le regarda, l'air vexé. Ils n'avaient jamais été complètement en phase, ces deux-là, Anton et Walfred.
« Qu'est-ce que tu veux dire par enrhumé ?» demanda-t-il.
« Rien de méchant, petit Anton. » Mais un livre comme ça peut très bien avoir un putain de rhume, tu comprends? Et ça peut être fichtrement contagieux. D'ailleurs, les livres peuvent avoir toutes sortes de maladies. C'est entre les lignes et ça peut se voir qu'avec une loupe. Une vraie peste pour la santé, les livres. T'en prends un entre les mains et tu te mets à lire. Et le lendemain, t'es couché avec un mal de crâne pas possible et des délires et des choses pires encore. Je le sais parce que j'ai été contaminé il y a 2 étés. Voilà pourquoi je te le dis.
Contaminé par un livre? Demanda Anton étonné.
C'est-à-dire, pas tout à fait. Plus exactement, par une bouteille de rhum que le capitaine Olsen cache toujours enfilée dans une carte marine au mess. J'en prends une sérieuse gorgée sans qu'il me voie, et pan, me voilà contaminé par une saloperie qui m'a poursuivi la moitié de l'hiver.
Ben alors, ça n'avait rien à voir avec les livres, protesta Anton en secouant la tête.
Le lieutenant regarda avec indulgence le jeune poète. Si Walfren dit que les livres contaminent, il sait de quoi il parle. Et quelle est la différence entre un livre et une bouteille de rhum? Il se pourrait bien que Walfred veuille dire quelque chose de plus profond, parce qu'il dit rarement quelque chose qui ne donne pas matière à réflexion. Le sourire de Walfred enveloppait à la fois Anton et le lieutenant quand il se renversa sur la couchette en fermant les yeux. Il avait fait passer son message et, comme toujours, Hansen l'avait amélioré. Anton se leva et passa dans son bureau. Là, il s'installa à son tonneau et se mit à réfléchir sur l'hypothèse des livres enrhumés. Il s'ouvrit complètement à cette idée, parce qu'en tant qu'écrivain, Anton était ouvert à la plupart des choses. Et même si, a priori, ça allait contre ses convictions que Walfred soit capable d'accoucher d'une pensée tant soit peu profonde, il devait admettre qu'il pouvait y avoir dans le concept des livres enrhumés davantage et autre chose que le microbe qui donne le nez rouge et les yeux larmoyants. Quand il eut fini de penser, il entr'ouvrit la grande voile et cria dans la salle de séjour. « J'ai décidé de partir pour l'Europe cet été. » Puis il referma, coinça le tonneau entre ses jambes et posa le crayon sur le papier pour y coucher un poème sur les forces négatives des mots et leurs effets contagieux. Anton avait si souvent prétendu qu'il pouvait partir pour l'Europe que plus personne n'y faisait attention. C'est seulement au moment où son éditeur annonça par le sans-fil son intention de publier un nouveau livre, un recueil de poésie cette fois, et qu'il souhaitait la présence d'Anton le jour de sa sortie, que ses compagnons comprirent que cette fois-ci, c'était pas du pipeau. Le télégramme arriva en avril, et pendant un mois entier, Anton se réjouit de l'avancement de ses affaires. Puis, une inquiétude sournoise se mit à le ronger. Il passa bien des nuits blanches, et quand enfin il arrivait à dormir quelques heures, c'était pour se réveiller le cœur battant la chamade et le corps couvert d'une sueur froide. Naturellement, il essayait d'analyser ses angoisses. « Anton, se dit-il sévèrement à lui-même, un jour qu'il montait en traîneau jusqu'au détroit de Vega pour vérifier les pièges. « Anton, maintenant il faut te ressaisir, sacré bon sang. T'es bachelier, t'as fini ton apprentissage de chasseur et t'es poète. Qu'as-tu donc à craindre? Réjouis-toi, bonhomme. » Et il se mit en devoir de se réjouir le restant de la journée. Avec un certain succès d'ailleurs, tant que le soleil scintillait sur la glace et que le chien glapissait de zèle et de bonheur parce que c'était le printemps. Mais dès qu'il était à nouveau couché pour la nuit dans une cabane de chasseurs ou sous la tente, certaines visions le submergeaient à nouveau. Arrivait la femme sans visage, Miss Makin, ou la splendide Emma. Avec celle-ci, ça allait, parce que c'était des amis de longue date, mais ensuite se passait systématiquement autre chose qu'il ne maîtrisait pas. Le joli visage d'une fille, et puis d'une autre, et d'une autre encore s'imposait à lui, qu'il ait les yeux ouverts ou fermés. Elle le dévisageait de leurs grands yeux candides, et c'est à ce moment-là que les sueurs froides s'abattaient sur lui, l'obligeant à sortir de son sac de couchage et à aller jusqu'à la cuisinière où il se grillait un beefsteak histoire de se calmer.
C'est seulement la veille de son départ de Cap Thompson qu'il parla à ses amis de ses difficultés, et tous firent ce qu'ils pouvaient pour dédramatiser et le réconforter. « C'est pas aussi grave qu'on a tendance à s'imaginer, » dit Sieverts. « La dernière fois que je suis parti en vacances, moi, j'étais vachement inquiet par rapport à ces histoires de bonnes femmes. Putain, est-ce que j'étais mal à l'aise en remontant Strand Gad avec mon sac marin, mon fusil et une peau de bœuf musqué enroulée sur la nuque ?» Il secoua pensivement la tête. « J'aurais préféré rester à bord et repartir chez moi tellement je me sentais ridicule. Mais il y a toujours quelque chose qui te sauve, Anton. Un peu comme si tout était prévu par le Big Boss là-haut. » Parce que juste quand je marchais là, un dimanche matin, sous un soleil pâle qui allongeait les ombres, je passe à la hauteur du deuxième bistrot sur la gauche en remontant à partir de Trangraven. Et devant le bistrot, une luxueuse dame assise sur une chaise me souriait. Elle était comme faite en buvarde, tu vois, parce qu'elle épongeait toute l'inquiétude de mon corps rien qu'en me souriant. Légèrement embarrassé, Sieverts brassa ses cheveux roux et hirsutes tout en ayant un rire niais. Il ne s'est rien passé d'autre ? Demanda William, qui avait déjà entendu mille fois l'histoire, mais ne s'en lassait jamais. « Ben, si, c'est-à-dire que j'ai loué le bistrot avec dame et mobilier pendant 15 jours, » dit Sieverts. Il fixa le plafond d'un air rêveur. C'était l'année où Loz était parti en Amérique dans ses tonneaux de salaison, alors que j'avais une petite déprime à soigner. Fjordur élargit ses immenses narines et renifla fortement. « Un bistrot dans Strangad, avec tout le mobilier et une dame somptueuse, » soupira-t-il avec langueur. « T'y dormais aussi ?» Chaque nuit, dit Sieverts en hochant la tête, et même des fois un peu pendant la journée. À ce moment-là, on déroulait la peau de bœuf musqué derrière le comptoir de manière à être juste sous le robinet de la bière pression. Quelles vacances ! William le Noir secoua la tête. Ce genre de truc ne m'est jamais arrivé à moi. T'as dit le deuxième bistrot sur la gauche ? À partir de Trangraven, oui. Sieverts leva les yeux avec un large sourire. Il tapota Anton dans le dos pour l'encourager. Tu verras, Anton. Le Big Boss, là-haut, il a sûrement quelque chose pour toi aussi dans sa haute friandise. Tu t'habitueras à tout là-bas en bas. Et si t'aimes pas, t'auras qu'à rentrer.
Et puis, Anton monta à bord de la Vesley Marie, qui était le premier contact de l'année avec le monde extérieur, et avec un peu de chance, le dernier aussi. Ses nombreux amis restèrent sur le banc devant la maison à écouter Björken commenter les mouvements d'Anton avec sa longue vue. Maintenant, il est monté dans le tonneau, informa Björken. Il fait des grands signes vers nous et hurle quelque chose. C'est sûrement un poème d'adieu, soupira Herbert ému. Il avait un chat dans la gorge qu'il fit passer en articulant un « ce petit merdeux ». La Vesley Marie slalomait à travers les glaces qui gisaient en rang serré et paresseux dans la baie, dégoulinante sous le soleil majestueux. Et quand le comte et Vol apportèrent les rafraîchissements du soir aux esselés, le vieux Raffio avait disparu à l'horizon, et un nuage noir haut au-dessus de la glace témoignait seul, encore, de son existence. Walfred était couché dans la bruyère, appuyé sur un coude. Il savourait avec satisfaction le punch du comte, un punch chaud, sucré et corsé. « Ce sera quand même pas facile pour Anton là-bas en bas, » dit-il avec tristesse. « Imaginez-vous, ne plus jamais pouvoir pousser l'horizon. » Les vieux chasseurs hochèrent la tête pour acquiescer. Seul petit Pedersen, qui n'était pas complètement familiarisé avec l'expression, demanda « Cette histoire de pousser l'horizon, Walfred, qu'est-ce que ça veut dire au juste ?» Walfred lécha sa barbe aussi loin que portait sa langue et déposa son verre dans la bruyère. Il se coucha de tout son long et cala confortablement la nuque dans la veste roulée du lieutenant. « Ben, tu vois, Pedersen, quand tu ressens le besoin de te vider les intestins, tu vas, au cas où t'es pas l'heureux propriétaire de chiottes comme Sieverts, jusqu'à la plage, et tu t'installes. Et là, dans la paix de l'âme et le bien-être du corps, tu te purifies. À un certain moment au cours de ce processus merveilleux, c'est comme si tu poussais un peu l'horizon. Et ça peut être bigrement dur pour Anton de se passer de ce moment, maintenant qu'il s'y est habitué. Sieverts leva son verre devant ses yeux et regarda à travers. « Bien que j'ai des tinettes chez moi, dit-il, il m'arrive d'aller sur la plage et de m'y installer. Surtout en été quand tout est calme, qu'il fait chaud, et que la vue sur le fjord est superbe. On est si émerveillé quand on est là, à regarder, qu'on en oublie même les moustiques. Dieu seul sait si Anton va trouver un endroit à Redovre où il pourra pousser l'horizon en toute quiétude. Ils continuèrent à parler d'Anton pendant longtemps, et c'est seulement quand Herbert se mit à lire à haute voix un passage de son roman que la plupart d'entre eux s'endormirent sur le banc, le premier soleil du matin sur le visage. À bord de la Vesley Marie, Anton fut traité comme un invité de marque. Le capitaine Olsen reniflait en lui de la grandeur, et là où il y a de la grandeur, il y a le plus souvent aussi de l'argent. Les auteurs célèbres gagnaient des millions, lui avait-on dit, et peut-être Anton serait-il vraiment célèbre un jour. Anton ne pensait pas beaucoup aux honneurs et à la célébrité. Ses pensées tournaient constamment et avec inquiétude autour des femmes. À part l'imaginaire Emma et Miss Makin, qui devint la fiancée d'Alvor, il n'avait pas approché un jupon depuis 4 ans. Il avait écrit sur elle et vécu intensément avec elle dans ses livres, il les avait aimées et adulées, et elle lui avait manqué. Et maintenant que le rêve devenait inexorablement réalité parce que la Vesle-Marie grignotait, mille après mille, la distance qui le séparait de l'Europe, le rêve se transformait en cauchemar. Allongé dans sa couchette, il écoutait le raclement de la glace contre le bateau et il avait des sueurs froides à l'idée de l'inévitable. La terreur grandissante tournait à la paralysie et au beau milieu de la troisième nuit dans les glaces, Anton jaillit de sa couchette et sortit de sa cabine. Il avait pris une décision irrévocable. « Olsen, haleta-t-il une fois qu'il se trouva devant le capitaine sur le pont. « Veux-tu bien me rendre le service d'arrêter ton rafio et de me déposer ?» Olsen regarda le poète avec étonnement. Il poussa en arrière la visière luisante d'usure de sa casquette et plissa les yeux. « Vertigo à retardement » pensa-t-il. Cela arrivait au cours de voyage à l'aller comme au retour, dès que des esprits fragiles perdaient les pédales avec le quotidien et l'habituel. « Allons bon, tu veux déjà redescendre, Anton ?» Il regarda par-dessus le bord du bateau où des grandes plaques de glace noueuses se déplaçaient paresseusement sous la pression de la Vesle-Marie. « Tu trouves peut-être que ça va trop lentement et tu veux courir devant ?» Anton secoua la tête avec impatience. « Je veux plus aller au Danemark, » dit-il. « C'était un malentendu. Sois gentil, stoppe les machines et laisse-moi descendre, tout de suite. » Olsen se gratta la nuque. Il eut un geste désarmé du bras. « J'ai peur que ça soit pas possible, Anton. » Ton chef de station m'a payé pour ton retour, et dans ce cas, c'est mon putain de devoir en tant que capitaine de te faire faire tout le trajet. Mais allons plutôt dans le salon pour en discuter. » Et c'est ce qu'ils firent. Olsen se répandit sur les merveilles de l'Europe, tout en gavant Anton d'un genièvre visqueux. Anton perdit rapidement l'usage de la parole, la tête lui tournait, et il fixait le capitaine de ses grands yeux effarés. Quand Anton fut endormi, Olsen l'installa sur son canapé pelucheux et le recouvrit délicatement d'une couverture. « Voilà, monsieur le poète, maintenant tu dors gentiment jusqu'au moment où nous aurons atteint la pleine mer. Et à moins que tu puisses marcher sur l'eau comme un autre grand bonhomme avant toi, tu resteras probablement à bord jusqu'à Copenhague. » Mais les choses ne se passèrent pas tout à fait comme avait prévu Olsen. Il y avait de la glace tout le long de la côte est du Groenland jusqu'en dessous de l'Islande, et cette glace paresseuse bloquait le bateau de toute la pression de son indolence, et ce en l'absence du moindre souffle de vent. Donc, quand Anton se réveilla le lendemain matin et s'arracha lentement et à tâtons à l'étreinte du Genièvre, son inébranlable résolution lui revint. Il parvint à s'extraire en gémissant du canapé d'Olsen et se glissa hors du salon. Il fit rapidement son sac marin, agrippa son fusil et gagna la poupe en rasant les coursives où la vigie ne pouvait pas le voir. La Vesle-Marie attendait, presque immobile, que deux grosses plaques veuillent bien se séparer. Anton profita de l'occasion pour balancer son sac et son fusil par-dessus bord, et après un dernier regard vers le pont, il sauta lui-même. Il resta un moment là, à regarder le bateau qui lentement disparut dans un vague brouillard de glace. Anton sentit le bonheur lui traverser le corps. Après tout, les femmes là-bas dans le sud n'avaient qu'à se débrouiller sans Anton Pedersen. Et toutes ces histoires d'honneur et de célébrité n'auraient qu'à attendre une prochaine fois. En fin de compte, tout ceci concernait moins l'auteur que son œuvre. En souriant, il écoutait le ronronnement des moteurs de la Vesle-Marie, et quand ce ne fut plus qu'un lointain bourdonnement, il prit son fusil en bandoulière et se mit à marcher de plaque en plaque. À certains endroits, il eut fallu attendre que les blocs de glace se rejoignent avec le courant, mais la plupart du temps, il pouvait marcher de champ de glace en champ de glace sans même avoir besoin d'ajuster la longueur de ses pas. Une vraie balade, pensa-t-il, et il prit plaisir à chaque instant. Ses visions de jeunesse de héros polaires remontèrent à la surface et il rit à gorge déployée de ses idioties. Un héros, c'était quoi au juste? Et quelle absurdité de parler de héros polaires, parce que soit on aimait être ici et à ce moment-là on vivait dans les conditions qu'exigeait le pays, soit on n'aimait pas, et à ce moment-là, on repartait avec Olsen. Les héros, ça n'existait pas, pas plus les héros polaires que les héros des tropiques, ou encore les héros des banlieues de Copenhague, comme Redovre. Anton marchait, tout ébloui de sa grandiose lucidité, tout content à l'idée d'être resté fidèle à sa décision. Le brouillard s'épaissit, mais cela ne dérangeait pas Anton, parce qu'il savait qu'un brouillard de glace comme ça pouvait durer des jours et des jours. Il marchait en avant comme son instinct le lui dictait, c'est-à-dire plein sud, alors qu'il aurait mieux valu aller vers l'ouest, parce que le sens de l'orientation n'était pas le point fort d'Anton. Souvent, quand il partait de Guestgrave pour relever les pièges à renards dans le district nord, il lui arrivait de revenir du sud avec des renards qui en fait appartenaient à Fjordur. Mais Herbert avait toujours mis ce défaut sur le compte de la poésie. Quand un bonhomme a la tête pleine de rimes et autres choses étranges, on ne peut pas exiger qu'il arrive en même temps à retenir les quatre points cardinaux. Anton marchait donc vaillamment en direction du sud, persuadé que les montagnes impressionnantes de la côte est du Groenland, la rivière arctique, allaient se révéler à ses yeux dès que le brouillard daignerait se lever. Mais le brouillard ne se levait pas. Il restait étendu sur les masses de glace, humide, gris, impénétrable. Le capitaine Olsen jura par tous les diables dès qu'il se rendit compte de la désertion d'Anton. Le garçon était sous sa responsabilité à lui et il entrevoyait tous les problèmes qui ne manqueraient pas de lui tomber dessus dès que le bateau aborderait les quais de Copenhague. Il donna de la corne de brume et hurla au fugitif, dans son porte-voix en laiton, de revenir sur le champ. Puis il envoya des matelots sur la glace avec l'ordre d'assommer le déserteur et de le lui ramener. Une journée entière, le bateau resta immobile, puis Olsen décida, fulminant de rage, de retourner à Cap Thompson. L'avocat Volmersen était assis sur le banc, en train de prendre du bon temps, un verre de vin dans une main et un cigare maison dans l'autre. Le brouillard stagnait à un mille de la côte, et Volmersen découvrit que la fumée de son cigare devenait invisible une fois qu'elle était au-dessus de la glace et qu'elle avait mélangé sa couleur bleu foncé avec celle du brouillard. Il découvrit en même temps une très vilaine décoloration dans toute cette grisaille, une suie noirâtre et graisseuse sur le compte de laquelle aucune erreur n'était possible. Museau, qui venait de finir de ranger dans la yole les provisions de ceux de Björkenborg, remonta de la plage et s'assit sur le banc. Il enleva ses lunettes et les mit dans sa poche. « Tu prends vraiment plaisir à l'aide du crépuscule, hein, volé ?» dit-il gentiment. Il leva son petit nez boursouflé et renifla. Ça sent la paix, l'arrière-saison et le cigare. Il fronça le nez, et quelque chose d'autre, je ne sais pas exactement quoi. Volmersen hocha la tête. Il fixait la colonne de fumée noire qui s'était transformée en point d'exclamation devant le brouillard. Côté paix, c'est probablement un peu exagéré, pensa-t-il, parce que si ce n'était pas la Vesle-Marie, c'était sans doute le vaisseau fantôme qui s'était transformé en vieux rafio de chasse aux phoques. Tu vois ce que je vois, Museau? Je vois que dalle, répondit Museau qui, dans ses lunettes, était aussi bigleux qu'un orvet, mais je le sens. C'est la Vesle-Marie, soupira Volmersen. Je m'en doutais, répondit Museau. Cette puanteur détonne sur le reste. Le capitaine Olsen était proche de la crise d'apoplexie quand il mit pied à terre. Les chasseurs, qui s'étaient précipités, reculèrent devant le Norvégien enragé. Où est-ce que vous cachez Anton, bordel de merde? Beugla-t-il. Sortez-le illico, espèce d'enfoiré. Mads Madsen regarda Fjordur d'un air entendu. Ça y est, il est devenu complètement timbré, dit-il à voix basse. Ça faisait des années que je m'y attendais. Il regarda autour de lui, l'air de chercher quelque chose. Anton, tu dis? Quelqu'un a vu Anton? Tu lui veux quelque chose de précis, Olsen? Peut-être un exemplaire dédicacé de son roman? Laslil faisait des gestes énergiques par la fenêtre. « Moi, je sais où il est » hurla-t-il, rayonnant de joie. « Sur ton bateau, capitaine Olsen !» Björken se retourna et envoya un regard style lance-flamme vers son ancien apprenti. Voilà que cet imbécile avait une fois de plus, morbleu, gâché une affaire qui se présentait bien. C'était vraiment déprimant. Olsen hurla. « Il a déserté, pauvre con. Que le diable me grille !» Ce grand dépendeur d'andouille est tout simplement descendu au beau milieu des glaces, comme s'il s'était trompé de tramway. « C'est vrai ça, Olsen ?» Mats Madsen fixa le gros marin d'un air surpris. « Tu veux dire que ton passager, le chasseur et poète Anton Pedersen, comme ça, sans raison, est descendu de ton rafio et qu'il est parti à pied sur la glace? Ça, c'est pas bien, capitaine. » Le directeur n'appréciera pas du tout la nouvelle, sans parler de la presse mondiale qui attend sûrement Anton à son arrivée à Trangraven. Qu'est-ce que tu lui as donc fait, Olsen? Il doit bien y avoir une raison à ce départ précipité. Ce que j'ai fait, Olsen cracha de rage. Juste ciel! J'ai été aux petits soins avec lui, je l'ai même écouté pendant des heures parler de ses foutaises de poésie, des moqueurs, des tumeurs, des je pleure. Pouah! Quelle horreur! Et puis Anton est descendu, comme ça, sans crier gare. La voix de Mats Madsen roucoulait. Voilà qu'il avait enfin coincé Olsen. Olsen qui, 4 ans auparavant, avait exigé le plein tarif pour ramener Emma à Aalborg. Ça veut dire qu'il ne compte plus parmi les passagers de ton rafio. Ce qui veut dire qu'il faut évidemment que tu rembourses son billet. J'exige le remboursement immédiat sur le compte de la station de Cresgrave. Putain, Mats Madsen, le billet n'a aucune importance. Anton est peut-être mort, siffla Olsen, indigné. Dans le meilleur des cas, il se débat là-bas dans les glaces avec son sac et son fusil et finira par se flinguer. Herbert, qui était chef de station à Cresgrave, tendit la main. En attendant, file-moi déjà l'argent du billet sans importance, Olsen. Olsen ignora la main tendue. Vous devez m'aider, gémit-il. Aidez-moi à le retrouver. L'argent d'abord, dit Herbert, implacable. Olsen paya, et tout le monde put constater la vive douleur que cela lui causait. Quelques heures plus tard, la Vesle Marie et toutes les yoles des chasseurs participaient aux recherches. Ils cherchèrent 2 jours et 2 nuits durant, dont seulement les dernières 24 heures s'embrouillèrent. Puis, un fort vent d'ouest se mit à souffler, ce qui obligea Olsen à quitter les glaces pour ne pas risquer son bateau. Les yoles revinrent les unes après les autres, et les chasseurs restèrent encore quelques jours à Cap Thompson pour honorer la mémoire du disparu que tous, à part Walfred, tenaient pour mort. Herbert écrasa une larme et murmura qu'il tenait terriblement à ce garçon tout poète et voyou qu'il a été. Walfred, qui au retour s'était approprié la couchette de Mats Madsen, dit: Tu parles d'Anton comme s'il avait déjà clamsé, mais je te fiche mon billet qu'un jour il va se pointer à Guestgrave pour reprendre du service. Herbert le regarda avec tristesse. Si ce vent se maintient, la glace va en faire de la chair à pâté. C'est peut-être ce qu'il voulait après tout. Peut-être qu'il avait quand même vraiment peur des honneurs et de la célébrité. Ça doit pas être si facile que ça d'être un génie. Moi, je suis de l'avis d'Herbert, dit Fjordur. Anton a déposé ses camiques depuis belle lurette. Peut-être, dit Walfred, mais jamais personne n'est assez mort pour pas pouvoir ressusciter. Ça peut arriver même au meilleur. Il se tourna sur le côté pour avoir une meilleure vue d'ensemble des chasseurs. Moi, j'ai connu une fois un apprenti boucher de Ringsted qui a ressuscité comme ça. C'était un mec qui avait vraiment pas de bol, un vrai bonhomme du jeudi, même qu'il s'appelait Larsen. On dit un bonhomme du vendredi, corrigea Björken. Il se pencha en avant et regarda Walfred, le triomphe modeste. Oui, monsieur, et le pire, c'est le vendredi 13. C'est bien possible, admit Walfred, conciliant. Mais le Larsen dont je cause était un homme du jeudi. On ne pouvait pas imaginer de type plus malchanceux que lui. S'il aiguisait son couteau le jeudi matin, il se tailladait affreusement les doigts toute la journée. Et s'il ne l'aiguisait pas, c'était pire encore. La seule île décrocha et s'esclaffa. Mais Walfred, on ne peut pas se couper affreusement avec un couteau émoussé. Idiot, siffla Björken. Tu peux quand même comprendre que si un couteau ne coupe pas bien, on utilise beaucoup plus de force pour couper, et que si ça dérape, les dégâts sont évidemment plus importants. Ah bon? Vu comme ça, oui. Lasly hocha la tête d'un air absent. Il n'avait pas encore eu le temps d'assimiler l'explication, mais ne voulait pas avoir l'air stupide. Et arrête d'interrompre tout le temps à son maître en envoyant un regard d'excuse à Walfred qui continua. Ouais, c'était vraiment triste avec ce Larsen. Il avait eu un départ malheureux dans la vie parce qu'il avait été accouché au forceps et qu'il a gardé toute sa vie une tête franchement assez étroite. C'était d'ailleurs un jeudi. Encore nourrisson, il a réussi à refiler à son père la coqueluche, maladie dont le père mourut. À l'âge de 3 ans, il tomba par une fenêtre sur sa grande sœur, dont la hanche a cassé. À partir de cette époque, elle ne fut connue à Ringsted que comme Mademoiselle Trampoline. Walfred poussa un profond soupir plein de compassion. À la fin, la vie de Larsen était tellement misérable qu'il n'avait plus que 2 solutions, entrer dans les ordres ou s'adonner à la boisson. Il essaya d'abord avec le Seigneur, mais ça n'allait pas du tout. Même s'il a fait tous les efforts qu'il pouvait, il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas fait pour les affaires religieuses. C'était comme si Dieu n'était jamais là le jeudi, le jour où Larsen avait le plus besoin de lui. Alors il s'est rabattu sur l'alcool. Il a acheté un litre d'alcool pur auprès du vétérinaire de l'abattoir et s'y est colleté. Et ivre, ça, il a réussi. Tellement ivre qu'il a trébuché dans sa chambre, s'est enfoncé la tête dans le pot de chambre et qu'il a fallu le transporter à l'hôpital pour le recoudre de partout. Walfred ménagea une petite pause pour que le verre soit à nouveau rempli sans faux colle et repris. C'est là que Larsen décida qu'il en avait sa claque, qu'il voulait maintenant en finir. Il chargea une brouette d'une bêche et d'un pistolet d'abattage et se mit en route pour le cimetière où il creusa un trou profond et long. Il s'était choisi un bon emplacement avec banc, panorama et tout et tout. La tombe fut vite assez spacieuse pour contenir Larsen dans toute sa longueur. Mais quand il a eu fini, il a donné sans faire gaffe un coup à la brouette qui a basculé, si bien que le pistolet est tombé dehors, a touché une pierre et que le coup est parti. La détonation a renversé Larsen qui est tombé dans le trou, sa tête a heurté la bêche qu'il avait oubliée en bas. Et c'est comme ça qu'il a été un des rares à essayer sa tombe à l'avance. Il est mort ? Laszlo n'avait pas pu tenir sa langue. Walfred le regarda, sérieux. Mort ? Oui. Diable qu'il est mort. Il était mort depuis longtemps, parce que c'était pas une vie d'être Larsen. Il est resté dans ses nouveaux appartements avec plein de terre sur lui. Nouvelle pause, plus longue. Tout le monde réfléchit à l'histoire de Walfred, qui avait créé la même atmosphère atone que quand il leur chantait, dans un lit d'hôpital. Walfred regarda doucement par-dessus le bord de la couchette. Puis il dit à voix basse. C'était un Larsen flambant neuf qui s'est relevé de sa tombe. Il en avait pris un sacré coup, et il avait la tête plutôt lourde quand il s'est redressé et qu'il a secoué la terre. Il a regardé autour de lui avec étonnement, parce que, mort de son âme, il n'arrivait pas à piger pourquoi il était assis dans un trou dans la terre, une bêche et un pistolet d'abattage à ses côtés. Un peu effrayé, il s'est mis à genoux et a passé la tête par-dessus le bord de la tombe. « Enfer et damnation » murmura-t-il. « Je suis mort !» Il toucha son visage, ses bras et ses jambes et murmura. « Au moins, on a l'air d'y aller complet. Peut-être que j'ai déjà ressuscité, va savoir. » Il regarda le cimetière autour de lui, les pierres et les croix immobiles au clair de lune. Puis il poussa un soupir profond et, satisfait, se leva et sortit de sa tombe. « Quelle veine de cocu! Je suis premier au portillon » rigola-t-il heureux. « Vaut mieux aller vite avant que ça se bouscule. » Et puis Larsen entra dans le jardin du paradis. Walfred eut un sourire pour ses dents qui reposaient sur l'étagère de la couchette et les dents le lui rendirent chaleureusement. Le Larsen ressuscité sortit dans le monde qui pour lui était Ringsted et la nationale pour Roskilde. Jusqu'à la fin de ses jours, il considéra ce monde-là comme le paradis et il était heureux et joyeux et plus chanceux que la plupart des gens. D'abord, il hérita un jardin d'ouvriers à Ringsted et quelques années plus tard, un terrain avec droit de pêche dans le fjord de Roskilde. Et enfin, il resta célibataire toute sa vie. L'histoire avait du souffle, et même Laszlo se doutait de sa profondeur et d'un lien entre Larsen et Anton, lien qu'il n'hésiterait pas, à l'occasion, de demander à Björken de lui rendre plus explicite. Björken dit « Et je suppose que tu vas prétendre que Larsen est tombé dans sa tombe un jeudi ?» Walfred secoua la tête. « Un jeudi ? Non, Björk, c'était un vendredi. » « Un vendredi 13, d'ailleurs. » Ça, je le sais, pour sûr, parce que c'est le jour où ma fiancée a rompu. C'est des vrais jours de chance, ces vendredis, à mon avis. Anton se sentit le vent qu'une fois le brouillard levé. Il regarda tout autour de lui, mais ne vit que de la glace, aussi loin que son œil portait. Cela ne lui fit cependant aucunement perdre sa bonne humeur. Il n'avait ni froid, ni faim, et son sac à dos était rempli de poissons séchés. Et le plus important était qu'il n'avait plus d'embouteillage dans le ventre à l'idée de l'inconnu. La vie souriait à nouveau à Anton Pedersen, il marchait en se réjouissant à l'idée d'un long hiver littéraire à Gasgrave. La glace commença à s'animer. Les plaques se mirent à ruer coléreusement les unes contre les autres, et l'eau salée à lécher les bottes de cuir graissé d'Anton. Le vent souffla de plus en plus fort, se transformant en vrai blizzard. Et la glace commença à s'entasser. Ça craquait, ça grondait, ça grinçait autour d'Anton. Les plaques glissaient les unes sous les autres, frappaient et cognaient et jouaient des coudes pour se faire de la place. Anton glissait et tombait et glissait encore. Mais pas un instant, il ne regretta d'avoir remis son voyage au Danemark. Il exultait et se félicitait de cette expérience extraordinaire. Désormais, il pourrait décrire, en homme expérimenté, les glaces entassées et les bruits de tonnerre sans rien modifier à la réalité, ni en plus ni en moins. Il tourna le dos au vent et sentit ses coups comme des tapotements amicaux dans le dos. Ainsi, pensa Anton, ainsi donc est la nature quand il y en a assez. La première fois qu'il tomba dans l'eau d'une plaque qui, d'un coup, s'était mise à la verticale, c'est une autre plaque qui l'aida à se relever, une plaque qui justement était en train de se remettre à l'horizontale après un plongeon sous l'eau. Anton se mouilla et prit froid, mais il réussit à garder intact son fusil, son sac à dos et sa bonne humeur. La deuxième fois, il perdit son sac, mais réussit à balancer son 89 sur deux morceaux de glace plus petits et à se hisser à nouveau au sec. Partout autour de lui, la glace se déchirait, se dressait et retombait, se fracassant en morceaux plus petits. Devant lui, un petit iceberg voguait d'un air hésitant, et il réussit à se hisser sur sa cime instable. Quand il se mit debout et regarda vers le soleil qui était en train de disparaître comme dans un brasier, il découvrit les contours d'un paysage de hautes montagnes sauvages. Il était cependant trop brinquebalé et transi pour faire attention à ce qu'il voyait. Il y avait une terre et c'est là qu'il devait aller. Il resta accroupi sur l'iceberg toute la nuit, et une fois le vent calmé au petit matin, il quitta l'iceberg et se mit à sauter de plaque en plaque en direction des montagnes abruptes. Dans l'après-midi, le vent tomba complètement et la masse compacte de glace se mit à se dissocier. De l'eau libre passait entre les plaques et Anton avançait désormais lentement. Au bout d'un moment, il se trouva isolé, dans une immense clairière, sur un vieil iceberg qui avait fait tout le voyage depuis le pays d'Anton avec le courant froid du Groenland oriental. Le morceau de glace était endommagé en dessous car il avait eu l'inconséquence de se laisser piéger par un maigre courant affluent du Gulf Stream au nord de l'Islande avant de se retrouver à nouveau dans une eau raisonnablement froide. Anton était accroupi sur son petit monticule de glace, le fusil entre les jambes et la tête mollement affalée contre sa poitrine. Il était au-delà de la fatigue et du froid, et ce qu'il voyait ne pénétrait que lentement dans sa conscience. Par exemple, il ne voyait pas du tout les maisons au bord du Cap Tobin, alors qu'elles étaient si proches qu'il aurait pu en faire sortir les habitants rien qu'en criant. Pas plus qu'il ne vit Massanti au bord de la glace, à une cinquantaine de mètres de son iceberg. Quanton ait été retrouvé et tout à l'honneur de ce vieux chasseur de l'est du Groenland, Massanti qui, tous les matins, avant tous les autres chasseurs, se rendait au bord de la glace dans l'espoir d'attraper enfin un phoque. Massanti était âgé et malvoyant, et même s'il se dirigeait soigneusement vers le bord de la glace et prétendait être capable de flairer où il en était par rapport à la mer libre, c'était uniquement grâce à ses cinq vieux chiens maigres et perclus d'arthrose qu'il s'arrêtait à temps tous les matins. Massanti était donc accroupi au bord de la glace quand Anton passa à sa hauteur, à une vitesse confortable. Et c'est les chiens de Massanti qui les premiers flairèrent quelque chose d'inhabituel. Ils se mirent à couiner et à glapir tant et si bien que le vieillard finit par être tiré de ses doux rêves de chasse, frotta ses yeux chassieux et regarda au travers de ses lunettes cerclées de fer. « Puis-y » murmura-t-il, plein d'espoir. Et il s'imagina qu'il flairait l'animal. Il distinguait même, assez vaguement certes, une silhouette noire sur la glace qui ressemblait bigrement à un phoque à l'affût d'une proie. Le premier coup de Massanti siffla tout près de sa tête sans cependant causer aucun dommage. Mais le suivant toucha la glace devant ses pieds et envoya tout plein d'étincelles de glace dans le visage pétrifié. Là, Anton sortit de sa torpeur. Il vit le vieux chasseur, fut debout d'un bond et hurla avec fureur. Hé, espèce de misérable manchot, tu tires sur des gens en train de se reposer? De terreur, Massanti sentit son cœur lui remonter dans la gorge. Incrédule, il fixa la bestiole qui hurlait avec une voix presque humaine. L'inquiétant monde des esprits de son enfance l'enveloppa tout à coup. Il n'avait pas affaire à un phoque qui s'était redressé sur ses nageoires arrière pour crier. Non, c'était bel et bien un esprit maléfique du fjord, ou pire encore, un kivitok. Avec un hurlement, Massanti lâcha son fusil et se mit à courir du mieux qu'il pouvait vers la terre. Ses chiens le regardèrent étonnés et se mirent ensuite à examiner avec intérêt cette créature sur la glace qui maintenant sautait de plaque en plaque pour atteindre la glace solide. Anton ramassa le fusil de Massanti et alla jusqu'à son traîneau. Le chef des chiens grogna méchamment, comme c'est le devoir d'un chef, mais une fois qu'il eut goûté à la botte de cuir graissée d'Anton, il émit un hurlement pitoyable, persuadé désormais qu'il n'y avait pas de différence essentielle entre un véritable homme et ce marcheur des glaces puants. Les hurlements du chien réveillèrent ses quatre collègues aux pattes douloureuses, et dans un effort commun, ils réussirent à mettre en branle le traîneau, bien qu'Anton se soit installé à l'horizontale sur la peau de voyage. Sur le chemin de Scoresbysund, ils dépassèrent Massanti qui, d'un trot léger, avait déjà parcouru une distance considérable. Il était à ce point en proie à sa terreur des phénomènes surnaturels sur les glaces qu'il ne répondit même pas à la salutation polie d'Anton quand celui-ci le dépassa. Il était heureux d'avoir échappé au monstre et se réjouissait profondément à l'idée de raconter ses aventures aux autres vieillards du village. Il suivait de loin les chiens des yeux, sans même se rendre compte que c'étaient les siens. L'arrivée d'Anton à Scorsbyzond fit sensation. Il fut chaleureusement reçu par l'administrateur du comptoir, un Danois, et son épouse groenlandaise, par le curé, par l'instituteur et par toute la population groenlandaise. Il constituait un événement exceptionnel parce que jamais auparavant on n'avait reçu de visite en cette période de l'année. Et qui plus est, jamais d'un homme qui arrivait à pied tout droit des glaces. Il fallait bien sûr célébrer ça sérieusement, et quand Anton, au cours des festivités, fut installé dans le lit conjugal de l'administrateur pour raison de fatigue et suite à un léger étourdissement, il était si épuisé qu'il n'aurait pas pu épeler son propre nom. La fête continua donc sans Anton. On avait d'amples provisions de tout dans la boutique et un entrain pour faire la fête qui ne connaissait aucune limite. Une des participantes aux festivités était Sophia. Au premier regard, elle avait décidé qu'Anton allait devenir son fiancé. Et pendant qu'Anton s'adonnait à un long sommeil réparateur et que la population du hameau faisait la fête dans l'entrepôt, Sophia alla à la rivière où elle se lava les cheveux soigneusement et se savonna tout le corps parce qu'elle avait entendu dire que ces curieux caveglounets détestaient la saine odeur du corps. Pendant que ses longs cheveux noirs séchaient au soleil de la nuit, elle cueillit un sachet entier de myrtilles qui avait juste subi le premier gel leur assurant leur pleine saveur. Les oreilles encore pleines du bruit de la fête, elle retourna au petit matin au logement du régisseur. Elle se regarda dans la vitre de la chambre où dormait Anton et sourit, contente de ce qu'elle voyait. Puis elle ouvrit avec précaution la fenêtre et se glissa dans la chambre de l'homme endormi. Un moment, elle resta à contempler le long chasseur aux cheveux blonds. Son visage était imprégné d'une grande paix et de plus, couvert de cheveux et de poils, ce qui suscita un frissonnement délicieux en Sophia. La couette était trop courte et elle regarda, ébahie, les énormes pieds qui dépassaient comme une paire de raquettes de neige canadienne au bout du lit. Jamais Sophia n'avait vu de jeune homme aussi grand et beau. Sans un bruit, elle se déshabilla, souleva la couette et se glissa dessous, toute nue. D'abord, elle resta sans bouger, en s'imprégnant de sa chaleur et de son odeur. Puis ses mains, poussées par la curiosité, partirent en balade. Elles glissèrent le long de la splendeur velue de son torse, s'attardèrent sur les épaules osseuses, descendirent le long des bras, touchèrent les hanches, le ventre plat et encore un peu plus bas. Là, les mains s'arrêtèrent. Sophia ouvrit grand les yeux et toucha encore une fois. Était-ce vraiment possible? Avec une précaution infinie, elle souleva la couette pour confirmer de visu la découverte de sa main. Anton rêvait, et son rêve était si vivant et si intense que quand il se réveilla, le rêve était devenu réalité. Sophia avait pris possession de lui, mais il ne s'en rendit compte qu'après avoir glissé, avec un profond soupir, du monde des innocents dans celui des initiés. Il ouvrit les yeux et découvrit, étonné, un mignon petit minois avec deux yeux noirs et rieurs. Et il sentit combien ses petites mains caressaient son dos de façon apaisante. Et puis il sentit le bonheur qui ruisselait de ses reins à elle vers les siens. Anton referma les yeux pour rester dans le rêve. Les lèvres de Sophia glissèrent, chaudes et humides, sur les coins de sa bouche, mordillèrent un bout de barbe et continuèrent le long du nez jusqu'à ses yeux. « C'est le paradis !» pensa Anton. Ils restèrent une éternité sans rien dire. Anton bouillonnait de pensées qui rapidement se transformaient en poèmes d'une qualité dont il ne se serait jamais cru capable. Parce que ce n'étaient pas des poèmes qui avaient pris leur source dans de la théorie, ce n'était pas ce produit synthétique dont il avait farci son premier roman et son premier recueil de poésie. C'était un pur délice de sensualité, un miracle de désir et d'intimité. C'était tout ce qu'il avait craint, cela même qui lui avait fait fuir la Vesley Marie. Il serra ses longs bras autour du dos de Sophia et l'étreignit contre lui. « Ah, ça va quitte !» chuchota Sophia. Et Anton hocha la tête et répéta le mot dans son oreille. Il ne savait pas ce que cela voulait dire, mais c'était un mot rond et mélodieux qui contenait tout le mystère du petit corps brun de Sophia. Avant la fin de la matinée, Anton était fiancé. Une des participantes aux festivités était Sophia. Au premier regard, elle avait décidé qu'Anton allait devenir son fiancé. Et pendant qu'Anton s'adonnait à un long sommeil réparateur et que la population du hameau faisait la fête dans l'entrepôt, Soufia alla à la rivière où elle se lava les cheveux soigneusement et se savonna tout le corps parce qu'elle avait entendu dire que ces curieux caveglounets détestaient la saine odeur du corps. Pendant que ses longs cheveux noirs séchaient au soleil de la nuit, elle cueillit un sachet entier de myrtilles qui avait juste subi le premier gel, leur assurant leur pleine saveur. Les oreilles encore pleines du bruit de la fête, elle retourna au petit matin au logement du régisseur. Elle se regarda dans la vitre de la chambre où dormait Anton et sourit, contente de ce qu'elle voyait. Puis elle ouvrit avec précaution la fenêtre et se glissa dans la chambre de l'homme endormi. Un moment, elle resta à contempler le long chasseur aux cheveux blonds. Son visage était imprégné d'une grande paix et de plus, couvert de cheveux et de poils, ce qui suscita un frissonnement délicieux en Sophia. La couette était trop courte et elle regarda, ébahie, les énormes pieds qui dépassaient comme une paire de raquettes de neige canadienne au bout du lit. Jamais Sophia n'avait vu de jeune homme aussi grand et beau. Sans un bruit, elle se déshabilla, souleva la couette et se glissa dessous, toute nue. D'abord, elle resta sans bouger, en s'imprégnant de sa chaleur et de son odeur. Puis ses mains, poussées par la curiosité, partirent en balade. Elles glissèrent le long de la splendeur velue de son torse, s'attardèrent sur les épaules osseuses, descendirent le long des bras, touchèrent les hanches, le ventre plat et encore un peu plus bas. Là, les mains s'arrêtèrent. Sophia ouvrit grand les yeux et toucha encore une fois. Était-ce vraiment possible? Avec une précaution infinie, elle souleva la couette pour confirmer de visu la découverte de sa main. Anton rêvait, et son rêve était si vivant et si intense que quand il se réveilla, le rêve était devenu réalité. Sophia avait pris possession de lui, mais il ne s'en rendit compte qu'après avoir glissé, avec un profond soupir, du monde des innocents dans celui des initiés. Il ouvrit les yeux et découvrit, étonné, un mignon petit minois avec deux yeux noirs et rieurs. Et il sentit combien ses petites mains caressaient son dos de façon apaisante. Et puis il sentit le bonheur qui ruisselait de ses reins à elle vers les siens. Anton referma les yeux pour rester dans le rêve. Les lèvres de Sophia glissèrent, chaudes et humides, sur les coins de sa bouche, mordillèrent un bout de barbe et continuèrent le long du nez jusqu'à ses yeux. « C'est le paradis !» pensa Anton. Ils restèrent une éternité sans rien dire. Anton bouillonnait de pensées qui rapidement se transformaient en poèmes d'une qualité dont il ne se serait jamais cru capable. Parce que ce n'étaient pas des poèmes qui avaient pris leur source dans de la théorie, ce n'était pas ce produit synthétique dont il avait farci son premier roman et son premier recueil de poésie. C'était un pur délice de sensualité, un miracle de désir et d'intimité. C'était tout ce qu'il avait craint, cela même qui lui avait fait fuir la Vesle Marie. Il serra ses longs bras autour du dos de Sophia et l'étreignit contre lui. « Ah, ça va quitte !» chuchota Sophia. Et Anton hocha la tête et répéta le mot dans son oreille. Il ne savait pas ce que cela voulait dire, mais c'était un mot rond et mélodieux qui contenait tout le mystère du petit corps brun de Sophia. Avant la fin de la matinée, Anton était fiancé. À Guessgrave, Herbert tournait en rond, tout en l'absence de son compagnon disparu. Et pour lutter contre la solitude, il partit en voyage de visite jusqu'à Cap Rumpel. Le télégraphiste Mortensen et Doc l'accueillirent avec compassion, comme on reçoit quelqu'un en deuil, et ils l'écoutèrent avec patience quand, le soir, la voix tremblante, il se mit à lire à haute voix des œuvres posthumes d'Anton. Autant Mortensen que Doc admettaient volontiers le génie du disparu. « J'aurais juré qu'il deviendrait le premier prix Nobel du nord-est du Groenland, » opina Mortensen. « Dommage qu'il ait largué les amarres aussitôt. » Herbert hocha la tête, et il resta silencieux un moment, s'imaginant Anton, vêtu de l'anorak de fête blanc et d'un pantalon de marin flambant neuf, recevant l'insigne honneur de la main de Sa Majesté le roi de Suède. Et il continua en s'imaginant lui, Herbert, ainsi que tous les autres amis groenlandais d'Anton, assis dans la salle à regarder, fier qu'il soit l'un des leurs. Doc, cependant, avait une autre opinion. Il était plutôt de l'avis de Walfred, comme quoi Anton serait de retour un beau jour, ressuscité des morts tout comme Larsen en son temps. Ce que les deux autres contestaient vivement. Parce qu'il était si doux et si triste de se remémorer le jeune poète et de pouvoir sans retenue s'épancher sur ses nombreuses qualités sans risquer de le voir débouler un jour et se moquer d'eux. Herbert repartit chez lui, mais avec toujours autant de mal à supporter la solitude. Anton lui manquait atrocement, et c'est pourquoi il aménagea une petite salle du souvenir dans le bureau derrière la grand-voile. Le tonneau fut passé au vernis à bateau, le tabouret poncé et peint au minimum rouge. Il habilla les murs de sacs de farine gris pour créer de l'ambiance et suspendit toutes les photos d'Anton qu'il avait prises au cours des années avec son petit appareil cubique. Enfin, il éparpilla des feuilles de papier froissé par terre comme si Anton venait tout simplement de sortir après une longue nuit de travail. Cette salle du souvenir restaura la paix en Herbert. C'était doux et mélancolique de penser à Anton. Le soir, il mangeait son plat préféré, du salami danois sur des crêpes très cuites, tout en bavardant avec son compagnon défunt. Qu'Anton ne réponde pas n'était pas si grave, parce qu'on ne pouvait pas exiger d'un artiste en pleine création qu'il réponde à des questions terre à terre posées par un simple chasseur. Herbert passa ainsi les mois d'octobre et novembre. Il soignait ses pièges à lui et ceux d'Anton avec régularité et sans se plaindre, parce que son intuition lui disait avec certitude que ce qu'Anton était en train de créer derrière la grand-voile, quand lui-même tournait dans le district, deviendrait quelque chose d'unique dans la littérature danoise, quelque chose dont il aurait lui-même comme sa toute petite part, du fait de son zèle à lui rendre service. Mais alors, juste au moment où novembre devenait décembre, Anton revint. Tout à coup, il fut là, dans l'embrasure de la porte, un large rire au milieu de la barbe et ses yeux clignant à la forte lumière du Petromax. « Salut Herbert, » dit-il. Herbert le regarda, incrédule. Il sentit les poils de sa nuque se redresser et sa bouche se dessécher. « Qu'est-ce que tu viens foutre ici, nom de Dieu ? » demanda-t-il d'une voix rauque. « Ici ?» Le sourire d'Anton fraîchit. « Mais je suis revenu. » Herbert se leva. Il se mit à marcher autour de la table à petits pas mesurés. « Alors là, non, ça marche pas, mon cher. » Il secoua la tête. « T'es mort et disparu et tout le bastringue. Et alors tu peux pas comme ça te pointer la gueule enfarinée en disant que tu veux rentrer. Mais y a pas de mais ici, » coupa Herbert. Quand on ressuscite des morts, on n'a plus de droit dans ce bas monde. On n'a qu'à rester au paradis ou à l'endroit où on a atterri. Anton s'assit sur la chaise de la cuisine. Il comprit combien la solitude avait lourdement pesé sur Herbert. « Je ne suis ressuscité de rien, » dit-il. « Je reviens de Scorbysund où j'ai été retardé par des fiançailles et des intempéries. » Herbert s'arrêta devant lui. « Des fiançailles, tu dis ?» Anton hocha la tête. « Elle s'appelle Sophia. » « Manquait plus que ça. » Herbert lui enfonça un doigt raide dans la poitrine. « Alors t'es redevenu tout à fait normal ?»«
Je crois que oui. »
Anton sourit. Herbert alla jusqu'à la cuisinière, ouvrit la porte du four et sortit une assiette de crêpes réchauffées. Il les posa sur la table et pendant qu'il coupait des tranches de salami, il demanda. « Mis à part cette histoire de fiançailles, t'as peut-être quand même fait un bon voyage ?» Anton le regarda longuement. Il saisit une crêpe, la tartina de margarine et posa trois tranches de salami dessus. Puis il s'y attaqua goulûment et murmura « À cause de ces fiançailles, Herbert, ce fut un délicieux détour. »